Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Alexandre de Juniac, PDG d'Air France KLM. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour, bienvenue à tous dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Notre invité aujourd'hui donc Alexandre de Juniac, PDG d'Air France KLM. Bonjour monsieur de Juniac.
Bonjour.
Merci d'avoir réservé cette première prise de parole au grand jury. Votre entreprise et vous-même, vous êtes au cœur de l'actualité de ces deux dernières semaines. Nous allons y revenir longuement. Pour vous interroger à mes côtés, Alexis Brézé des rédactions du Figaro, bonjour, et Julien Arnaud de TF1 LCI.
Bonjour.
Et en fin d'émission, Benoît Galeret de TF1 LCI nous rejoindra, c'est devenu une habitude dans cette émission, pour relayer ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous nous rappelez comment ça marche, comment les internautes peuvent nous envoyer leurs questions, celles que nous n'aurions éventuellement pas posées.
C'est tout simple, un compte Twitter et un mot-clé, le grand jury, tout attaché. Moi, en effet, je compile tout ça, je vous ferai en fin d'émission un premier ressenti de ce qui s'est dit sur les réseaux de cet entretien, Benjamin.
A tout à l'heure, Benoît. Hashtag donc le grand jury. Alexandre de Juniac, il y a une actualité très récente. En début de semaine, des salariés de votre compagnie ont été arrêtés au saut du lit, au petit matin. Ça a créé un certain émoi, une polémique. Quelle est votre réaction quand vous apprenez cela? Êtes-vous choqué?
Comme les 100 000 salariés du groupe, et puis comme je crois des millions de Français, la vision des images de mes plus proches collaborateurs, qui m'ont d'ailleurs fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui sont victimes de violences inqualifiables, ça m'a profondément choqué. On a été vraiment bouleversés de voir ça. Comment est-ce possible dans une entreprise comme Air France, dans une entreprise aussi remarquable par la qualité de son dialogue social, des rapports qu'on a avec les salariés, de l'attention qu'on leur porte. Et c'est tout à fait normal, encore une fois.
Mais vous trouviez la méthode d'interpellation, est-ce que vous pensez que c'était légitime? Est-ce que ça complique
Non, je crois que, si vous voulez, il y a deux procédures. Il y a une procédure judiciaire qui est menée par les autorités judiciaires sous l'autorité du procureur de la République. Et là-dessus, nous n'avons pas du tout d'influence et on laisse la justice faire son travail.
Il s'agit de 5 salariés qui ont été mis en garde à vue et...
Absolument.
Ils auraient pu être convoqués,
comme c'est le cas de 11 autres.
Non mais là, moi je ne commente pas la manière dont la justice fait son travail. Elle fait son travail indépendamment de nous. Nous avons par ailleurs...
Parce que le patron de la CGT dit on les a arrêtés comme des malfrats de la pire espèce.
Moi je ne commente pas ce point-là. Il ne m'appartient pas de commenter ce que fait la justice. Elle fait son travail et on lui laisse
faire son
travail.
Encore un peu plus les relations sociales chez Air France, cette façon de procéder, on le sent bien.
Je ne pense pas parce que... La grande majorité des salariés aussi a été très choquée de ce qu'elle a vu. Parce que, dans le fond, c'est destructeur, c'est injuste, en fait. Et c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est destructeur parce que, quand vous y réfléchissez, une compagnie aérienne, la base de son contrat avec les passagers, c'est assurer leur
qu'est-ce
sécurité.
Qu'est-ce qui est destructeur, monsieur de Juniac? C'est l'agression dont on était victime, les deux cadres qui sont ici, monsieur Brossetta et monsieur Pissonnier, ou est-ce que c'est également cette interpellation?
Plus, je voudrais dire, quelques membres de leurs équipes, des ressources humaines, plus des personnes, des services de sécurité qui ont été assez sévèrement molestés.
Ce sont des voyous qui ont fait ça?
Je ne reprends aucun de ces mots.
Parce que c'est le mot de Manuel Valls, hein. Il a dit ce sont des voyous.
Il l'a dit devant nous parce qu'il nous a fait l'honneur de venir à Air France, à la fois pour marquer son soutien à la compagnie, pour témoigner, je le cite, de son affection aux personnes qui avaient subi ces violences, notamment à Pierre Plissonnier et à Xavier Brossetta. Et pour dire qu'il condamnait fermement ces violences.
Vous dites comme lui, ce sont des voyous?
Moi, ce que je dis, c'est que nous avons, de notre côté, engagé des procédures disciplinaires pour que
vous reprenez pas le mot de
à la fois la vérité et les sanctions soient prises.
Est-ce qu'il y aura d'autres procédures disciplinaires? Est-ce qu'elles sont toutes engagées?
Il y a 18 procédures disciplinaires qui sont engagées. Alors, vous savez que, pour ça, pardon de rentrer dans quelque chose d'un peu technique, mais nous appliquons à la fois le Code du travail, la Convention collective du transport aérien, le règlement intérieur. C'est une procédure qui est très précise, que nous appliquons avec beaucoup de scrupules. Chaque cas est traité individuellement. Chacun pourra présenter ses observations et faire valoir sa défense. Je termine, parce que c'est quand même très important de comprendre
ça. Mais est-ce qu'il y aura des licenciements après ces procédures? procédure
termine,
disciplinaire.
Il y a un conseil de discipline et le conseil de discipline prononce des sanctions. Cette procédure, elle met un certain temps et c'est normal parce qu'il faut que lorsqu'on prend des sanctions sur des faits qui sont graves, il faut que les choses se fassent dans la sérénité
Qu'il peut y avoir des licenciements à l'issue de ces procédures disciplinaires.
Parmi les sanctions qui sont possibles, au terme de ce que je vous ai mentionné comme texte, oui, c'est une des sanctions possibles, mais ce n'est pas la seule.
Pourquoi ne reprenez-vous pas à votre compte le terme de voyou prononcé par le Premier ministre et le terme de stupide, on le rappelle aussi, prononcé par Emmanuel Macron à CNN?
Moi, ce que je dis, c'est que ces actes sont le fait d'une minorité, petite minorité, complètement incontrôlés et qui ont commis des actes inqualifiables. Moi, ce sont les actes que je qualifie.
Ils sont soutenus par vos salariés, non ? Est-ce que ça n'a pas traduit ? Une peur, une crainte ?
Je voudrais rectifier quelque chose qui est, à mon avis, complètement faux. Je crois que la très très grande majorité de nos salariés, non seulement ont été très choqués de voir ce qu'ils ont vu, et ont exprimé leur solidarité, que ce soit avec Xavier Brossetta, Pierre Pissonnier, leurs collègues, et puis même publiquement. Donc je crois qu'on ne peut pas laisser dire ça. C'est parce que
traduction d'un malaise.
Non, mais vous l'avez vu sans doute. On a tout de suite fait une petite vidéo dans laquelle notamment Xavier Brossetta et des personnels en toutes les langues ont dit ce n'est pas le vrai visage de la France. Ça n'est pas le vrai visage de la France. Ça ne l'est pas, ça ne le sera jamais.
Vous dites qu'ils sont isolés. Malgré tout, d'après ce qu'on sait sur les 5 personnes qui ont été arrêtées, mises en garde à vue et en examen, il y a un responsable de la CGT et les 4 autres sont, d'après ce qu'on sait, là encore, affiliés à la CGT.
Oui, mais on n'en tire pas de conséquences particulières. Ce qu'il faut voir.
Est-ce que c'est la CGT qui s'est exprimée aussi?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il faut bien souligner que les deux personnes que je mentionne ont été protégées par un certain nombre de délégués syndicaux pendant ces événements, qui les ont protégées et qui ont d'ailleurs probablement été victimes de quelques violences eux-mêmes.
Vous craignez de nouveau des morts.
Donc on ne peut pas dire
que c'est la CGT.
Non, que c'était organisé.
D'accord.
Et pour être cela, encore une fois, c'est une minorité incontrôlée.
Les dirigeants de la CGT n'ont pas condamné ces actes.
Ne pas condamner,
c'est cautionner d'une certaine façon.
Moi, je vais vous dire, je considère que la violence physique, ça ne doit jamais être acceptée.
Vous dites quoi ?
Soit on la condamne. Ouais. Soit on la condamne, soit on l'encourage.
Mais vous voyez Philippe Martinez ce matin.
Moi, je considère qu'il faut la condamner.
Monsieur de Gignac, Philippe Martinez ce matin, le secrétaire général de la CGT, ne condamne pas expressément ces actes. Il dit que ça va exploser dans le pays. Est-ce que c'est une traduction ? Est-ce que ces propos, vous les acceptez ? Est-ce que vous craignez que ça entraîne de nouveaux débordements ?
Non, je ne les accepte pas. Je regrette qu'on ne condamne pas des actes de violence physique. Je le regrette parce que sinon, on l'encourage.
Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut recommencer.
Écoutez, ça, je ne commenterai pas cette phrase qui me paraît.
On va en venir à une dernière question.
Une question sur les faits eux-mêmes. Vous avez dit, mais comment ça a pu se passer ? Effectivement, c'est une question qu'on se pose. Vous aviez été averti qu'il y avait des risques de débordement. La police était là, mais pas là où il fallait. Concrètement, comment ça s'est passé ? Pourquoi la police n'est pas intervenue ?
Alors, l'accès à nos locaux est protégé, de manière générale. Et il était ce jour-là particulièrement protégé, les forces de l'ordre étaient là.
Ben oui, mais ça n'a pas tellement fonctionné.
Non, c'est exact. Il y a eu une poignée d'individus qui a réussi à s'introduire.
Grâce à des complicités, certains ont fait profiter leur badge de ces dérobats.
Exactement, et qui ont pu pénétrer dans la salle et donc pratiquer.
Vous avez identifié toutes les personnes qui ont fait ça aujourd'hui ?
Nous sommes en cours d'identification et comme je vous l'ai dit, il y a près d'une vingtaine.
Mais est-ce qu'il y a eu des consignes auprès de la police pour qu'elle reste sur les
pistes
et pas qu'elle intervienne dans les locaux ?
Il n'y a aucune. D'abord, ce n'est pas nous qui donnons les consignes.
Oui, bien sûr, non.
Premièrement. Deuxièmement, les mesures de protection étaient les mesures de protection habituelles, si je puis me permettre. C'est la première fois que de tels agissements se produisent. Deuxièmement, nous sommes dans un.
Dans les locaux, il y en a déjà eu.
Oui, mais enfin.
Mais vous en craignez d'autres ?
Qu'il y ait des violences physiques, c'est absolument. C'est la première fois et c'est complètement inqualifiable. Et deuxièmement, nous sommes dans un siège qui a été conçu comme étant un bâtiment ouvert, une compagnie aérienne. On a des millions de passagers. Vous voyez, on n'est pas là pour faire. Pour bunkériser. Notamment, on n'est pas là pour que le dialogue social se passe dans un bunker, vous voyez ?
Dernière question sur ce chapitre. Est-ce que vous craignez de nouveaux débordements ou pas de ce type ? Est-ce que, par exemple, il y a une réunion jeudi d'un nouveau comité central d'entreprise ? Est-ce qu'il aura lieu dans les mêmes locaux ? Et est-ce que vous craignez de nouveaux débordements ?
D'abord, des mesures de sécurité particulières seront prises pour éviter ça. Et vous me pardonnerez le fait de ne pas pouvoir vous les détailler, les meilleures mesures de sécurité.
Et juste une dernière question.
On ne dévoile pas à l'avance. Voilà.
Donc, nous verrons jeudi. Vous y serez, vous, jeudi ?
Moi, je ne suis pas, je n'ai pas qualité pour être au comité central d'entreprise qui est présidé par le DRH du groupe et auquel interviennent les personnels d'Air France.
Vu l'importance de ce rendez-vous, pardon, ce ne serait pas.
Non, alors, le 22 octobre, qu'est-ce qui va se passer? C'est un comité central d'entreprise où on va présenter des choses, pardon, d'entrer dans un peu.
Mais on va y entrer.
On va y venir, en effet.
On entre dans un processus de consultation sur la stratégie de l'entreprise et sur ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, c'est une procédure qui est prévue par une loi de 2013 et que nous sommes tenus d'engager tous les ans, et notamment dans cette période où on est en train de procéder à des profondes évolutions d'Air France.
Avant de revenir sur le développement du plan Perform, peut-être un dernier mot, vous parlez du visage de l'entreprise, vous dites que ça n'est pas le visage de l'entreprise, mais c'est le visage qu'on a vu partout dans le monde. Comment vous allez faire pour corriger cette image terrible au-delà de nos frontières?
Non, mais quand je dis que c'est destructeur ce qu'on a vu, c'est que ça a porté atteinte terriblement non seulement à l'image d'Air France, mais à l'image de la France. C'est que le monde entier assimile Air France et la France à ces images, c'est quelque chose d'inimaginable. Et quand vous pensez aux efforts déployés par les 100 000 salariés, tous les jours, pour accueillir les gens, pour les servir au mieux possible, pour faire d'Air France la plus belle compagnie du monde, ouais, c'est injuste pour eux.
Est-ce que vous ressentez des dégâts commerciaux, justement,
non, pas encore,
à ce stade?
Pas encore, et nous ne pensons pas qu'il y en aura. Il y a eu de très légères baisses de réservations sur notre réseau moyen courrier, mais qui sont maintenant atténuées.
Mais qui sont dues à ça?
Qui étaient dues plutôt à des potentiels risques de grève qui avaient été annoncés. Mais qui ne sont pas dues aux images qu'on a vues, heureusement.
Alors, il faut dire des conséquences en termes d'image, mais pas commerciales.
Non. Et alors, il faut savoir que toutes nos équipes, en plus, se sont mobilisées pour écrire à nos clients, leur parler, leur expliquer que ce n'était pas le vrai visage de la France.
Nous allons venir au fond du dossier.
Il y a eu des réactions très positives sur la vidéo.
Alors, nous allons venir au fond du dossier. Et sur ce plan, il y a des négociations qui se sont ouvertes à nouveau. Oui. Vous avez vous-même rencontré les syndicats. Il y a cette réunion jeudi. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait d'aboutir, et notamment dans vos négociations avec les pilotes, qui est le point dur?
Alors, comme vous savez, avec Frédéric Gaget et Xavier Brossetard, nous avons rencontré toutes les organisations, une par une.
Le président d'Air France et le
Frédéric
DRH.
Frédéric Gaget, président d'Air France, directeur des ressources humaines. C'est-à-dire directeur des ressources humaines d'Air France. Nous avons reçu toutes les organisations syndicales, une par une, pour les écouter, pour les entendre, pour essayer de comprendre s'il y avait des suggestions.
Depuis l'affaire des violences et du 5 octobre.
Sachant que nous les voyons très 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 régulièrement, que ce soit dans le cadre du comité central d'entreprise ou ailleurs. Nous les avons vus, ces réunions sont passées dans une atmosphère que je qualifierais de bonne.
Y compris avec les pilotes.
De confiance, y compris avec les pilotes. Ils l'ont dit eux-mêmes d'ailleurs. Ils l'ont dit publiquement eux-mêmes. Et nous avons...
Ils ont changé l'état d'esprit, vous le sentez?
Nous accordons avec tout le monde. Nous accordons avec tout le monde pour être convaincus que ce que nous devons faire, c'est pousser toutes les mesures qui permettent d'éviter les licenciements. Et ça, c'était notre plan initial, je le rappelle.
C'est le plan A, peut-être.
C'est le plan qu'on appelle le plan A, c'est le plan Perform.
Oui. Et vous en êtes
le plan Perform,
plan,
c'est un plan de développement de l'entreprise. Alors, où est-ce qu'on en est? Tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans le transport aérien? Il se passe d'abord qu'il y a de la croissance. Il y a de plus en plus de gens qui veulent voyager. Y a un chiffre qui est assez connu. Vous avez 50 millions de gens sur la planète, tous les ans, qui accèdent au pouvoir d'achat de se payer un billet d'avion. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont plus tout à fait ni dans les pays développés en Amérique du Nord ou en Europe, ils sont davantage dans les pays émergents en Asie. Donc, il faut aller. Donc, la croissance.
On viendra à votre potentiel de croissance, d'ailleurs.
C'est l'Asie. En Europe, c'est en train de se déplacer plutôt vers le segment du low cost. Sachant que le segment traditionnel, lui, est plutôt stagnant.
Mais sur le plan Perform, est-ce qu'il est.
Et donc, nous, notre plan Perform, c'est d'aller chercher cette croissance. Pourquoi? Parce que, avec cette croissance, on pourra ouvrir les destinations, acheter des avions, embaucher.
Oui, mais quel est le cas
en compétitivité, Alexis Brézé?
Alors,
en demandant aux pilotes de travailler plus en n'étant pas payés davantage.
Est-ce que vous leur demandez toujours 100 heures de plus, monsieur Dominique? Est-ce que c'est toujours la même condition que vous leur posez?
Ce que nous demandons, c'est que pour faire cette croissance, il faut faire des économies de coûts. Il faut faire des économies de coûts parce que non seulement nous avons des coûts plus élevés que nos concurrents, mais en plus nos performances économiques ne sont pas au niveau de celles de nos concurrents. Donc il faut faire ces efforts. On est dans une course de géants. Les compagnies d'aujourd'hui, là, il y a 10 ans, elles n'existaient pas ou elles étaient encore des nains.
Mais est-ce qu'on est revenu aujourd'hui à la situation d'avant le 5, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel ultimatum à vos personnels, fixé à une date que vous allez nous préciser peut-être, et au-delà de cette date, on reviendra au plan B et aux 2900 suppressions d'emplois?
Non, alors, j'explique comment ça s'est passé. Nous avons, depuis un an pratiquement, conçu, puis ouvert à la négociation le plan Perform, le plan que vous appelez le plan A. Ce plan Perform, le plan de développement, le plan de croissance. Et on a dit à partir du mois de juin, et d'efforts demandés à la fois aux navigants et à tout le monde d'ailleurs. Mmh. Hein. C'est-à-dire aux hôtesses et stewards, aux pilotes, mais aussi au personnel au sol. Cette négociation, elle se déroule dans divers secteurs, d'ailleurs, pour le personnel au sol. Elle n'a pas pu se finaliser pour les navigants. Et on avait dit, il y a 6 mois, c'est-à-dire en avril, si le 30 septembre, cette négociation ne peut pas être finalisée, il faut, à ce moment-là...
Alors, est-ce que vous leur fixez une nouvelle date de
train? Il faut que nous fassions des restructurations. Pourquoi? Parce qu'il y a des foyers de perte, il y a un petit peu moins de la moitié de nos lignes long courrier chez Air France qui perdent de l'argent, et donc on ne peut pas continuer comme ça.
Alors, une nouvelle date butoir ou pas ?
Mais c'était un plan de secours. Notre plan principal, c'était le plan de croissance.
Et ça reste important à savoir.
Mais je dis, on discute de quoi alors ? Du plan A ? Du plan B ? Ou d'un plan C ? Qu'est-ce qui est sur la table ?
Je dis, on discute stratégie de l'entreprise et conséquences sur la gestion prévisionnelle des emplois. Sur la base du plan B.
Mais est-ce que sur la base du plan B.
Parce que le plan A,
pour entrer encore dans les détails, les organisations syndicales, enfin, le comité central d'entreprise peut demander une expertise. Cette expertise qui durera quelques semaines, qui nous amènera au mois de décembre. Et au mois de décembre, sur la base des conclusions de l'expert et des discussions qu'on aura eues, on sera exactement à même d'évaluer les conséquences sur, à la fois en termes de stratégie et de gestion des emplois du plan B.
Donc vous n'avez pas suspendu le plan B ?
Non.
La procédure reste la même. Alors, on reste dans cet état d'esprit des 2900 suppressions d'emplois.
Je vais rentrer encore dans le détail. Pardon. Le plan B se déroule sur deux années, 2016 et 2017. Mmh. 2016 est lancé. Parce que quand vous transportez des passagers, vous voyez, il faut que vous annonciez vos destinations et vous mettez les billets en vente en gros 6 mois à l'avance.
Donc des lignes long courrier vont être fermées.
Donc les lignes long courrier que nous mettons à la vente à partir du mois d'avril 2016, il faut qu'elles soient mises en machine en gros en octobre-novembre. Mmh. Donc c'est pour ça que pour 2016, les choses sont lancées. Pour 2017, ça n'est pas le cas. Et donc nous avons dit, puisque nous venons d'écrire à l'ensemble des organisations syndicales que nous avons reçues, nous avons écrit Frédéric Gaget et moi une lettre commune pour leur dire, voilà, nous avons reçu, nous vous avons entendu et nous vous proposons un calendrier qui va jusqu'au début de l'année prochaine.
Mais qu'on comprenne bien, je dis dans cette réunion, il n'est pas question de revenir au plan A, c'est-à-dire au plan Perform initial.
Si les négociations sont réussies d'ici le début de l'année prochaine, nous pouvons éviter de mettre en œuvre le plan B 2017, c'est-à-dire revenir au plan A, au plan Perform.
Le plan B 2016, c'est un peu compliqué.
C'est lancé.
Celui-là, il est lancé, donc il s'appliquera, il n'y a plus rien à faire. Oui. Mais en revanche, ce qu'on peut encore supprimer, c'est le plan B 2017, à condition les navigants fassent les efforts que vous leur avez demandé dans le cadre du plan.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il concentre, c'est 2017 concentre l'essentiel des mesures du plan B. Donc en fait, l'essentiel des mesures, notamment les mesures douloureuses qu'on veut tous éviter...
C'est-à-dire les suppressions d'emplois.
Notamment, elles sont principalement concentrées en 2017. Et donc nous disons, négocions d'ici le début de l'année prochaine pour éviter la mise en œuvre de ces
mesures. C'est-à-dire que vous dites concentrées sur l'année prochaine. Est-ce que sur 2016, vous avez déjà prévu des suppressions d'emplois?
Alors,
des licenciements.
Mais c'est une part minoritaire de l'ensemble.
Combien, monsieur de Juniac, salariés veulent le savoir?
Alors ça, c'est des choses qui vont être précisément déterminées. Je vous rappelle que l'enveloppe globale pour le plan B, c'est 2900.
Oui.
Suppression d'emplois et non pas licenciement. Alors, j'ai entendu mais j'ai entendu ce mot prononcé pour les 2900. C'est complètement faux.
Alors, quelle
faux.
Est la proportion de départ à la retraite ou de départ non remplacé et de licenciement?
Alors, ce qu'on a dit par ailleurs, c'est que dans les endroits de la compagnie où on négocie les accords qui permettent d'atteindre nos objectifs de coût, qui nous remettent au meilleur niveau mondial, on n'aurait pas besoin de recourir à des licenciements secs. On pourrait passer par des mesures volontaires. Ce que nous avons fait depuis 4 ans. Depuis 4 ans, hein. Je voudrais juste rappeler ce point.
Sur ces 2900, on est bien clair, ces 2900 suppressions.
Depuis 4 ans, hein, on a remis Air France KLM, non seulement à l'équilibre, mais nous devrions être profitables cette année.
Combien,
on l'a désendetté. Ah non, moi, je,
300 millions d'euros. 300 millions de bénéfices.
Alors, là, c'est une information privilégiée. Je ne veux pas faire de vous et de l'ensemble de nos auditeurs
ça ferait beaucoup de monde.
Alors on revient sur les emplois.
On a fait ça. On a désendetté cette compagnie, donc qui était étranglée financièrement. On a lancé un produit à la fois sur long courrier et sur moyen courrier, ce qu'on appelle Best, qui nous met au meilleur niveau mondial. C'est 1 milliard d'investissements. Et ça a réussi. Ce produit et la compagnie s'est tellement améliorée que, disons, le guide Michelin des compagnies aériennes, qui s'appelle Skytrax, nous a accordé un prix comme étant la compagnie qui s'est le plus améliorée l'année dernière. C'est pas un hasard, c'est pas un miracle. C'est le travail de tous les gens qui ont fait ça. Voilà, on a
juste
ça.
Une question sur.
Et on a demandé des efforts.
Vous dites la date butoir maintenant, c'est début de l'année prochaine.
Oui.
C'est-à-dire qu'au 1er au 15 janvier, quelle est votre date exactement pour maintenant ces négociations ?
Écoutez, on a un petit peu de. Il y a un peu de marge de manœuvre. C'est le début de l'année. Moi, je dis qu'il vaut mieux un bon accord bien négocié que pas d'accord du tout.
Pour 2016, il y aura de toute façon des suppressions d'emplois en 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire. Puisqu'à très limité, celle-là, ça c'est combien ?
Très limité, c'est moins d'un tiers du total.
Moins d'un tiers des 3 900.
Presque 1000.
Presque 1000.
C'est en dessous de ça.
Sans licenciement. Est-ce qu'il y aura des licenciements ?
Sans licenciement ?
Non.
Que des départs volontaires.
Est-ce que des discussions sont prévues, un rendez-vous est pris avec les pilotes dans les jours qui viennent ?
Alors, comme avec les autres centrales, secrétaires des différentes organisations syndicales, nous avons proposé un calendrier de négociation. Nous attendons maintenant la réponse des pilotes. Alors, sous la négociation, mais nous nous sommes engagés mutuellement, les organisations syndicales et nous-mêmes, à ne faire aucun commentaire, ni sur le contenu, ni sur le calendrier détaillé. Pourquoi ? Parce qu'on veut négocier de manière sereine.
Mais voilà. Pourquoi, d'après vous, ils changeraient d'avis alors qu'ils sont allés jusqu'au bout du bout pour le 5 octobre ?
Parce que je pense que, notamment les événements du 5 octobre, on bouleversé beaucoup de gens, et j'imagine également les organisations syndicales, comme nous.
Oui.
Et on met l'accent sur la nécessité de négocier. Donc, je crois que tout le monde a envie de négocier. Mais
vous avez l'impression que
tout le monde
est revenu à la raison, c'est ce que vous nous dites. Vous avez l'impression qu'il ne peut plus y avoir de débordement du genre de ce qu'on a vu récemment. Vous pensez que tout le monde est revenu définitivement à la table des négociations.
Oui.
Vous dites on ne peut pas nous donner les détails de négociations, mais si on comprend bien, l'idée c'est quand même d'obtenir que les pilotes travaillent 100 heures supplémentaires, c'est toujours ça ? C'était le plan de
oui,
le plan
ça. A. Enfin, c'est non seulement les pilotes, mais aussi les
navigants.
C'est une centaine d'heures par an.
Donc ça reste l'objectif.
Ça reste l'objectif.
C'était jusqu'ici ce qui se heurtait à un refus.
Oui, mais enfin c'est pas tellement ça, parce que pardon de rentrer dans notre mécanique interne, mais pour faire voler des navigants 100 heures de plus, il y a des dizaines de mesures qu'on peut mettre en œuvre pour le faire. Quand est-ce qu'on prend ses congés, en été ou en hiver, comment est-ce qu'on compte le temps de vol. Il y a énormément de choses. Je ne veux pas rentrer dans cette
mécanique. Jusqu'à présent, les pilotes disaient, mais non, on a déjà fait des tas d'efforts. Puis d'ailleurs, ce n'est pas de notre faute, on est les boucs émissaires. Est-ce que vous pensez qu'ils vont changer de position ?
Ce que les pilotes ont fait comme effort très très important depuis maintenant 6 ans, c'est la remise en cause très profonde de leur méthode et de la manière dont ils exercent leur profession, notamment pour améliorer la sécurité des vols. Et ça, ils ont fait un travail extraordinaire.
Mais on ne parle pas ici de productivité, de compétitivité.
Mais vous voyez, quand vous passez, par exemple, ils avaient avant leur propre documentation, une documentation compagnie, pas une documentation constructeur. Quand on utilise des procédures différentes de celles qui avaient été habituellement utilisé depuis 15, 20 ou 30 ans pour certains d'entre eux, eh bien, c'est donc,
Monsieur de Gignac, juste deux questions.
C'est important,
oui,
ça.
Oui, on entend bien. On a tout entendu.
La sécurité des vols, n'oubliez pas, c'est la base de notre contrat.
S'il n'y a pas d'accord d'ici le début de l'année prochaine, est-ce que vous envisagez d'interroger directement vos salariés, de passer par un référendum ?
Écoutez, pour l'instant, je crois que c'est très, très prématuré. Pour l'instant, je voudrais...
Mais ce n'est pas absolument exclu.
Non, mais je vous rappelle plusieurs choses. Ces consultations n'ont pas de valeur juridique. Elles peuvent avoir une valeur politique.
Mais elles ont une force, elles ont un poids malgré tout.
Force. Et puis d'autre part, pour l'instant, priorité à la négociation.
Mais vous ne l'excluez pas, monsieur de Gignac.
Non, mais pour l'instant, c'est priorité à la négociation par les voies normales du dialogue social. Je vous rappelle, parce qu'il y a tout ce qui est important. La conception du dialogue social que j'ai et que nous avons en général à Air France, ce sont d'abord, c'est une méthode et du fond. La méthode, c'est quoi ? Ce sont des institutions et des gens qui sont légitimes pour le mener.
Et c'est votre méthode, monsieur Dejean.
Oui, mais c'est aussi des gens élus démocratiquement par les salariés et des gens nommés. Est-ce nous, que
oui. être pour monsieur Dejean, ça n'a pas tellement marché.
Si, on va... Si, non, je ne veux pas vous laisser dire ça, parce que le dialogue social Air France, c'est 107 accords de mémoire conclus en 2013, avec toutes les catégories de personnel, c'est 95 accords conclus en 2014, c'est 36 réunions de CCE depuis...
Sauf que les pilotes, parfois, ne respectent pas ces accords.
C'est ce que la
justice vient de reconnaître.
Que tout a été un succès. Oui. Mais le dialogue social, c'est permanent chez nous.
On va arriver à la pause. Juste, si vous permettez, on en reparlera, on a encore une demi-heure devant nous. Est-ce que, à un moment donné, cette affaire est devenue une affaire politique ? Est-ce que vous, monsieur Dejean, vous avez pensé à démissionner ou pas ?
Non, parce que je crois que... Moi, j'ai été nommé, vous savez, pour une mission que je trouve exaltante pour moi, si vous voulez. C'est un fleuron, même deux fleurons, parce que KLM est aussi un fleuron en Hollande, comme Air France est un fleuron en France. C'est les redresser et retourner sur la voie de la croissance parmi les grands. Mais ça, c'est une mission qui est formidable. Et je ne vois pas pourquoi... si vous voulez, des événements qui sont survenus le 5 octobre, qui sont le fait d'une poignée de gens incontrôlés et qui sont une infime minorité, devraient amener la direction du groupe qui, en plus, est soutenue par son conseil d'administration à l'unanimité et soutenue par tous les observateurs, nos clients, et il y a trois représentants de l'État, et y compris les pouvoirs publics.
Donc vous vous sentez soutenu par l'État. On va y revenir, mais vous vous sentez soutenu par l'État. D'accord, nous allons revenir, nous faisons une pause et nous vous retrouvons, Alexandre Dejean, pour le grand jury. À tout à l'heure.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Alexandre Dejean, PDG d'Air France KLM. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Monsieur Dejean, vous nous avez dit dans la première partie de l'émission que sur 2016, vous envisagez un millier de suppressions d'emplois, c'est bien cela, il n'y aura pas de licenciement.
Alors, deux choses. Premièrement, le chiffre, il sera d'abord donné et discuté au sein du comité central d'entreprise. Et effectivement, lorsqu'il y aura des accords, il y aura partout en fait des accords, moi je suis très optimiste là-dessus, il y aura des mesures de départ volontaires.
Voilà. Qui concerneront qui en priorité ?
Pilotes ? Non, là, permettez-moi de vous dire que c'est justement l'objet de la discussion au comité central d'entreprise, de la négociation. Et donc, on ne peut pas anticiper la question sur ce point,
M. Dejean. Vous avez dit, dans une interview récemment, je suis le dernier recours, c'est-à-dire je viens à ces négociations si je pense qu'on a besoin de moi. Est-ce que jeudi, vous pensez qu'on aura besoin de vous pour aller plus loin ? Est-ce que vous y serez ou pour l'instant, ce n'est pas d'actualité ?
D'abord, dans les négociations, comment ça se passe ? En général, que ce soit le président d'Air France pour Air France ou le président de KLM pour KLM, c'est assez comparable, en fait. Ou moi qui suis d'Air France KLM, on peut cadrer les négociations, venir pour débloquer des points ou pour finaliser une négociation, mais en général... on n'est pas présent à toutes les réunions.
Donc vous ne viendrez
entre
pas
nous,
tout de
suite. C'est partout pareil.
D'accord. Il y a eu ce CCE du 5 octobre où ça a dégénéré.
Oui, mais
vous
le président d'Air France était présent, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est la société Air France. C'est le comité
Frédéric Gagey président d'Air France a toujours votre confiance.
Bien sûr. Mais nous travaillons en équipe sur tous ces sujets tous les jours.
Alors, c'est devenu une affaire politique, Alexis Brézé.
Oui, on est un instant sous le rôle de l'État. Vous nous avez dit que j'étais soutenu par l'État, fort bien. Enfin, malgré tout, il y a eu un certain nombre de déclarations. Et peut-être d'abord du président de la République, parlant de la brutalité d'un certain nombre de décisions, celles des mouvements sociaux, mais aussi d'un certain nombre de décisions qui peuvent être celles des patrons. C'est pas un soutien franc et massif, ça, quand même.
Alors, d'abord, les pouvoirs publics se sont exprimés par la voix du Premier ministre.
Alors, lui, il vous a soutenu, ça, c'est vrai.
Par sa présence.
Le président est venu. Ce sont les pouvoirs publics aussi, quand même.
Je vais laisser répondre à Alexandre Dejean.
Par la voix du Premier ministre qui est venu à Air France pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporter son soutien à l'entreprise, son affection aux personnes qui avaient été les victimes. Et ça nous a beaucoup touchés, je dois vous dire. Deuxièmement, il a répété, parce que j'ai bien suivi ses déclarations, son soutien à la stratégie d'Air France, à l'équipe de direction et un dialogue social qui permettrait d'éviter les suppressions d'emplois. Ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'on veut faire depuis le début.
D'accord,
avec
mais
le
vous n'aurez pas échappé que je ne vous parlais pas de lui, mais de François Hollande.
François Hollande avait fait à parler de brutalité de décision de certains patrons.
Il y a une sorte de parallèle qui fait entre la brutalité des uns et la brutalité des autres.
Je ne commande pas, et je n'ai pas fait non plus précédemment les propos. Les propos
d'Emmanuel
Non, mais
vous ne vous sentez pas visé.
Le président de la République, et nous ne sommes pas sentis visés, puisque le président de la République n'a pas mentionné le nom d'Air France.
Non, enfin, c'est un contexte particulier quand même. Et
tout le monde a compris qu'il parlait d'Air France. Tout le monde s'est trompé.
Je ne prétends pas que tout le monde s'est trompé. Moi, nous ne nous sommes pas sentis visés.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec François Hollande, monsieur de Juniac ?
Non.
Est-ce que vous le souhaitez ?
Je crois que c'est à lui qu'il appartient de savoir s'il veut évoquer.
Est-ce que vous lui demandez de clarifier les choses ? Est-ce qu'il parlait de vous sur la brutalité des patrons ?
Juste. C'est à lui de, c'est à lui de prendre les dispositions qu'il juge nécessaires, c'est pas à moi.
Il y a quelqu'un qui parlait indubitablement de vous, c'est Ségolène Royal, qui est votre ministre de tutelle, qui a dit que la direction avait été un peu faible sur la qualité du dialogue social et qu'il y avait des mauvaises stratégies qui consistaient à opposer, dresser une catégorie de salariés contre les autres. Ça, pour le coup, elle parle bien d'Air France.
La première chose, c'est que ce qui pourrait être extrêmement choquant dans cette compagnie, c'est qu'on veuille dresser les gens les uns contre les autres. Pour moi, c'est la chose la plus inadmissible que puisse faire que ce soit un dirigeant, un représentant syndical, etc.
C'est ce que fait Ségolène Royal ?
Non. Je dis bien un dirigeant, un représentant syndical, ou quiconque, ou un salarié dans cette entreprise. Dresser les gens les uns contre les autres, c'est simplement inadmissible. C'est l'affaiblissement de la compagnie.
Monsieur de Juniac.
Et puis, c'est meurtrier pour l'emploi. Ça, c'est, si on veut être sûr d'avoir des conséquences négatives pour l'emploi, il faut dresser les gens les uns contre les autres. C'est parfait.
Monsieur, justement, en parlant de cela...
Et ça, jamais. Vous m'entendez ? Jamais.
Monsieur Gérard, en parlant de ça, oui, vous avez raison. Mais il y a une nomination qui intervient, c'est celle de Gilles Gâteau, qui est un conseiller de Manuel Valls. Il vient comme directeur des ressources humaines à Ex-France KLM. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une reprise en main par l'État de cette partie de gestion de l'entreprise ?
Non, ce n'est pas une impression, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes en discussion avec Monsieur Gilles Gâteau depuis maintenant des mois pour qu'il entre à Air France à la direction des ressources humaines pour, à partir du 1er novembre, pour ensuite prendre la direction des ressources humaines en janvier, parce que l'actuel titulaire, Xavier Borsetta, maintenant tout le monde connaît, est promu à Air France KLM. Donc c'est une décision beaucoup plus ancienne qui n'est pas du tout motivée par les événements du 5 octobre, qui n'a même absolument rien à voir, et nous n'avons rien changé ni aux modalités ni au calendrier de sa venue.
Alexis Brézé.
Et si nous l'avons choisi, c'est parce que c'est un excellent spécialiste des relations sociales et des relations humaines qui a exercé soit à la fois dans l'administration et dans les grandes entreprises publiques, qui nous a paru avoir le bon profil pour un poste qui, vous le reconnaîtrez, absolument crucial.
J'ai exposé.
Pour revenir d'un mot au propos de Ségolène Royal, est-ce que vous n'avez quand même pas un peu le sentiment qu'il y a au sein de l'exécutif Manuel Valls qui vous soutient très franchement et d'autres qui vous soutiennent un peu moins franchement ?
Non,
vous ne sentez pas deux discours différents ?
Et vous ne craignez pas que ce discours de Ségolène Royal il légitime d'une certaine façon les plus durs au sein des syndicats contre vous ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le Premier ministre et le chef du gouvernement a été parfaitement clair à plusieurs reprises.
Et pour vous, c'est la seule voix qui compte ?
C'est-à-dire que quand on demande par qui le gouvernement s'exprime et que le gouvernement s'exprime par la voix de son chef, et je l'en remercie, je crois que les choses sont...
Est-ce qu'il n'y a pas, cela dit, un double jeu de la part de l'État, au sens où ils disent qu'ils vous soutiennent, mais d'un autre côté, ils donnent des créneaux à Qatar Airways, par exemple, ou bien ils augmentent les redevances aéroportuaires ?
Qu'est-ce que nous demandons au pouvoir public ? Pas seulement à l'État français, mais on le demande aussi à l'État néerlandais, pour KLM et à l'Union européenne. On leur demande plusieurs choses. On leur demande d'abord de nous donner les armes pour nous battre. Les armes pour nous battre, c'est d'essayer d'alléger certaines charges ou contraintes qui pèsent sur nous. Lesquelles ? Il y a un certain nombre de taxes qu'on paye.
Il y a la taxe Chirac qui bénéficie à United pour les vaccins dans le tiers-monde.
Pour la recherche sur le sida.
C'est ça.
Qui est financée par les compagnies aériennes. Nous disons qu'on pourrait peut-être...
Ce ne sont pas les clients qui pèsent, c'est les compagnies ?
C'est-à-dire que c'est répercuté sur le billet d'avion, mais à un moment, la répartition entre les deux n'est pas... Est plutôt,
est-ce qu'il y a trop
donc il faudrait la faire sauter.
Est-ce qu'il y a trop de redevances qui sont prélevées par l'État ?
En changer l'assiette, c'est-à-dire qui paye.
Mais vous changez l'assiette.
C'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, nous disons qu'il y a un certain nombre de mesures sur les régimes de cotisation sociale, pardon, je rentre dans un peu de la technique.
Non, mais c'est les souhaits que vous exprimez
Des navigants qui puissent être allégés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que
qu'est-ce qui peut être allégé ?
Les navigants payent des cotisations sociales qui sont assez élevées, notamment en France, et nous disions si on pouvait réduire le montant de
cotisations sociales. De combien, monsieur
De Juniac ? Ça,
vous n'avez pas une idée ou une suggestion ?
Une idée assez précise.
Donnez-la à nous,
au
gouvernement.
Je pense que si on pouvait faire 200 millions d'euros à d'économies sur les cotisations sociales, ce serait bien. Et simplement, c'est un régime dont je ne prétends à aucune originalité, c'est celui du régime qui est applicable au transport maritime.
Sur Qatar Airways, je voudrais quand même revenir là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un double discours et c'est un peu sur le dos d'Air France, d'une certaine façon, que se font les ventes de Raval pour Dassault ou bien d'Airbus A380 Et en échange, il y a des créneaux pour Qatar Airways.
Alors, on demande au pouvoir public, notamment à nos gouvernements, d'être prudents dans l'attribution des droits de trafic, notamment aux compagnies dont on pense qu'elles ne respectent pas les mêmes règles de concurrence que nous.
Oui. Voilà. Donc vous condamnez l'attribution de ces créneaux.
C'est pas une bonne nouvelle qu'on donne des créneaux, mais jusque-là, ça a été, fait de manière prudente.
Et c'est un renvoi d'ascenseur pour Airbus et pour Dassault.
Mais il y a un risque qu'on en distribue davantage, notamment dans un certain nombre d'aéroports régionaux.
Il y a une forte demande des aéroports régionaux pour avoir des liaisons directes. Vous avez une occasion rêvée de dire à tous les gestionnaires d'aéroports régionaux et aussi aux grands élus locaux, ne faites pas ça.
Parce qu'ils sont très demandeurs, évidemment.
Mais oui, bien sûr. Mais alors qu'ils ont un hub international, c'est-à-dire un aéroport, la plus grande plateforme de correspondance d'Europe à Charles de Gaulle, et ils voudraient avoir des liaisons pour aller à une autre plateforme de correspondance dans le Golfe.
Mais vous trouvez que c'est
complètement déraisonnable.
Et vous trouvez
pourquoi ?
Parce qu'ils ont en France, c'est-à-dire sur le territoire national dont ils sont un des membres, dans ces collectifs de classe, sont des membres, la plus grande plateforme de correspondance d'Europe. Il ne faut pas l'affaiblir. Il faut la renforcer, au contraire.
Mais ça serait une perte de souveraineté, sinon.
Mais inversement, je vais peut-être le dire autrement. Qu'est-ce que c'est qu'un grand pays sans une grande compagnie aérienne ? C'est un pays qui n'est pas capable de faire venir les 83 millions de touristes que la France a connus, plus belle performance de tous les temps, et qui n'est pas capable d'envoyer ses commerciaux, ses ingénieurs exportés à l'étranger et rayonner. C'est un désastre. C'est un désastre de ne pas avoir une grande compagnie aérienne. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours, vous voyez.
Et parce que vous craignez que Air France disparaisse, est-ce que c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'entreprendre ?
Oui, je dirais oui. D'ailleurs, il y a un rapport qui est paru il y a maintenant 2 ans, qui s'appelait « Les compagnies européennes sont-elles mortelles ?» La réponse était oui. Mm-hmm. C'est pas nous qui l'avions commandé, premièrement. Deuxièmement, laissez-moi vous parler un peu du paysage, peut-être, pour qu'on comprenne
on va y venir.
Comment ça se passe ? Moi, face à moi, face à nous, il y a 10 très grandes compagnies qui non seulement sont immenses en taille, elles ont souvent plus d'avions que nous, et au moins autant de destinations. Elles ont à la fois des coûts inférieurs, des performances financières meilleures. Donc elles ont plus de moyens pour investir, vous voyez. Elles ont entre 5 et 10 fois plus de moyens que nous.
Vous craignez.
Je vais vous citer une phrase du président. De l'ancien président du syndicat des pilotes américains, qui nous aide un peu dans ces négociations par la connaissance qu'il a du secteur. Il dit en anglais, puis on traduira en français après, « If you are not at the table, you are on the menu. » Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes sur le menu.
Donc vous êtes dévoré.
Oui. Je fais tout pour revenir à la table, vous voyez.
Vous avez peur d'être dévoré.
Je fais ça tous les jours.
Vous avez peur d'être dévoré. C'est possible. C'est une possibilité.
Écoutez, regardez un peu autour de nous, dans des pays très très proches, des compagnies qui ont été les plus belles de leur temps, les plus brillantes, qui sont maintenant, qui ont été soit disparues, soit qui ont été mangées.
Le patron de Ryanair, votre ami Michael O'Leary, dit que d'abord, il pourrait racheter Air France, ses cigarettes le matin, et que, en gros, il n'y a pas d'avenir pour Air France toute seule, et que vous allez sans doute être racheté un jour par Etihad, parce que votre valorisation boursière est très basse.
Capitalisation boursière de 2 milliards pour Air France, 18 milliards pour Ryanair, 30 milliards pour Delta Airlines.
Oui. C'est exactement ce que je disais. Voilà, Ryanair et Delta font partie des 10 grandes compagnies qui mènent la course. Et vous voyez, quand je vous dis qu'ils ont des moyens supérieurs de 5 à 10 fois supérieurs aux nôtres, c'est exactement les chiffres que vous venez de citer. 2, 18, 2, 34.
Donc cette possibilité-là, vous trouvez que ce n'est pas complètement loufoque quand Michael O'Leary dit ça ? Est-ce que Air France a le risque d'être racheté ?
Enfin, si nous faisons performe, ce risque est nul. Oui ?
Et ça suffira performe ou il en faudra d'autres encore derrière ?
Non, mais dans 5 ans... Comment sera le monde et le monde aérien dans 5 ans ou 10 ans ?
Mais Perform ira pour 5 ans. Pas de nouveau plan après pendant 5 ans.
Le plan Perform, c'est Perform 2020.
Oui, mais monsieur de Gignac, c'est le deuxième plan que vous mettez en œuvre. Monsieur de Gignac, c'est le deuxième plan que vous mettez en œuvre depuis que vous êtes là. Comment vos salariés peuvent-ils penser qu'il n'y en aura pas d'autres? Vous leur certifiez aujourd'hui que, après ce plan-ci, il n'y aura pas d'autres plans qui pourraient englober des suppressions d'emplois, notamment.
Ce qu'ils savent, c'est que les deux plans Transform et Perform ne sont pas du tout les mêmes. Transform, c'était un plan de redressement, de restructuration de la compagnie, qui, je vous rappelle, nous a permis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de baisser l'endettement. Nous allons être profitables après 7 ans de pertes.
Mais vous ne voulez pas nous dire de combien?
Non, je ne peux pas vous dire de combien.
Mais vous ne demandez pas le chiffre. C'est une information.
C'est le chiffre qui circule partout.
Je ne dirai rien là-dessus. Troisièmement, de lancer un des plus beaux produits du monde, reconnu comme tel. Perform, c'est la croissance. On a jeté les bases, préparé cette compagnie à croître. Perform, c'est la croissance. Monsieur, et ça me permettra de faire, une chose que j'ai pas encore pu faire parce qu'on n'a pas pu le faire, vous voyez, c'est pouvoir participer à des réunions de nouveaux embauchés et de jeunes. Vous voyez.
Donc vous allez créer des emplois après.
Évidemment, en 2018, 2019, 2017 même, on va pouvoir recommencer à créer.
Mais vous avez besoin pour l'instant d'en supprimer.
J'ai besoin pour l'instant d'en supprimer, malheureusement, le moins possible, encore une fois, le moins possible. Et le plan Perform, c'est bien un plan pour éviter de supprimer les emplois. On ne le répétera jamais assez, ça.
Monsieur, j'ai juste une question. Vous avez demandé beaucoup d'efforts à vos salariés. Ils disent qu'ils en ont beaucoup fait. Est-ce que vous allez en faire? Est-ce que votre salaire, par exemple, vous souhaitez le baisser, ou est-ce que vous n'y toucherez pas? Vous pensez que c'est démagogique?
Alors,
qu'est-ce que vous allez faire?
Deux choses. D'abord, tout simplement, mon salaire a baissé. Donc, c'est entre 2013 et 2014, il a baissé de 14%. De vos confrères Libération a fait ce calcul qui est juste.
Benoît Hamon, qui vous a fait son proche, a reconnu ici la semaine dernière qu'il s'était
trompé. Voilà. Deuxièmement,
pas d'efforts supplémentaires,
mon salaire fixe est inchangé depuis toujours, depuis que je suis rentré à France. Et la moitié de ma part variable, je ne la touche pas par solidarité.
Et vous ne toucherez pas en 2015,
considère que maintenant il faut rester comme ça.
Ce serait qu'une moitié.
Juste un mot sur les.
Je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Une partie de d'ailleurs, un des intérêts de mon travail, c'est d'être au confluent d'intérêts contradictoires. Il y a les intérêts des salariés, il y a les intérêts des clients, les intérêts des actionnaires. Je ne peux pas ignorer non plus complètement les intérêts des actionnaires et ceux des salariés. Donc, j'essaie de partager sur les salariés. En réduisant d'à moitié ma part variable, j'essaie quand même.
Est-ce que les autres dirigeants feront un effort? Vous dites en faire un. Est-ce que les autres cadres de la société.
Vous savez, il y a eu beaucoup d'efforts
sur leur salaire.
Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Beaucoup d'efforts de fait par l'équipe de direction. Je vous en cite deux. Non seulement leur part variable a été réduite d'au moins 30%, et ça fait des années que ça dure. Je ne parle même pas des augmentations qui sont égales à des parts fixes. À poste inchangé, bien sûr, qui ne bouge pas. Nous avons aussi, il y avait des billets long courrier dont pouvait bénéficier la direction générale en nombre illimité. Maintenant, c'est limité. C'est très, très contrôlé.
Une question,
Alexis. On a évoqué en passant la question des low cost, des compagnies low cost. Vous avez voulu lancer Transavia au prix de nombreuses difficultés, notamment avec les pilotes. Est-ce que votre intention pour faire face à cette concurrence des low cost, c'est de développer Transavia?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai rejoint Air France en 2011, les low cost étaient 39% du marché européen. Maintenant, les low cost, c'est 45%. C'est 2 points par an. Donc c'est le secteur qui croît. Pourquoi? Parce que les passagers n'ont pas envie de payer des prix élevés pour faire des trajets court courriers.
Mais vous allez relancer Transavia, justement.
Transavia, nous avons, y compris après le conflit de septembre dernier, conclu un accord avec les pilotes qui a été approuvé par référendum.
Voilà, un référendum.
Dialogue social qui fonctionne.
Comme quoi, ça
donc,
peut
le référendum
être utile,
un référendum
organisé par le syndicat des pilotes de ligne, mais une négociation qui avait marché sur un sujet difficile, reconnaissez-le, qui venait de faire l'objet d'un conflit. Et on développe Transavia France.
Mais pas Transavia Europe.
Je continue. Transavia France, qui est devenue la première low cost au départ de Paris. C'est pas si mal, hein.
Oui, mais Transavia Europe, c'était ça.
Je continue.
La pierre d'achoppement l'année dernière.
Oui, c'était Transavia France, pardon, ça c'est une erreur, mais c'est une erreur d'interprétation. Le conflit est né sur Transavia
Donc
France.
Vous allez revenir là-dessus?
Alors, je continue. Les pilotes hollandais ont accepté, à partir de la partie hollandaise de Transavia, de développer des implantations en Europe. Voilà.
Et qu'est-ce qui marche avec les pilotes hollandais qui ne marche pas avec les pilotes français?
En signant un accord, et moi je suis très très ouvert à ce que les pilotes français viennent discuter de ça. Ça fera de l'emploi, et ça fera de l'emploi pilote notamment, ça fait des destinations nouvelles, ça accroît l'empreinte commerciale d'Air France KLM, c'est fondamental. Si vous... qu'est-ce que c'est qu'Air France KLM commercialement dans 5 ans? C'est le groupe qui vous offre la solution de transport quand vous avez l'Europe dans votre carte. Vous arrivez en Europe, vous partez d'Europe, vous voyagez en Europe, il faut que vous ayez un espèce de réflexe, vous voyez, de taper Air France KLM. Après, c'est Air France et KLM, c'est Transavia, ça n'a aucune importance.
Il y a une décision de justice là, qui vous est favorable, puisqu'elle demande aux pilotes d'exécuter les engagements qu'ils ont pris l'année dernière. Sur le plan précédent. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que vous craignez au contraire que cette injonction de justice crée un blocage?
Et est-ce que ce sera une arme dans la négociation qui va reprendre?
Non, cette décision de justice, elle vient à la fin d'un processus de négociation sur la fin de l'accord transforme par les pilotes, dont une partie n'a pas été appliquée. Nous avons demandé, nous avons demandé au juge de savoir si on pouvait appliquer la procédure d'arbitrage de l'accord. Donc c'était contesté, le juge a dit oui, vous pouvez l'appliquer. Donc maintenant nous verrons ce que nous allons prendre les dispositions nécessaires. Je voudrais juste revenir un instant sur ce que je vous disais avant. Est-ce que vous avez le réflexe de taper Air France KLM quand vous voulez voyager en avion?
Oui.
Et ben dans 5 ans, ah ben c'est bien, formidable. Dans 5 ans,
prennent des recherches, prennent des moteurs de recherche.
Vous ne penserez même pas à autre chose. C'est ça notre objectif.
Mais c'est le prix. Monsieur Caen, est-ce que dans 5 ans, ce sera Air France, KLM, Etihad, Delta non. et Air France sera un acteur d'un groupe
non,
plus,
ce qu'il y a,
plus global.
C'est Air France, KLM, Transavia, Hop, ça, ce sont nos marques. Et après, nous sommes dans une alliance qui est SkyTeam, comme vous savez, dans lequel il y a Delta, mais il y a aussi China Eastern, China Southern.
Ces alliances vont se développer encore plus pour constituer un géant?
Je pense qu'elles vont se renforcer. Si vous voulez. À 10 ans, en fait, Air France, KLM sera le pilier européen solide d'un ensemble mondial dans lequel il y aura un pilier américain et des piliers asiatiques. Et si on veut peser là, face à mon collègue de China Eastern ou à mon collègue américain de Delta, je peux vous dire que il est absolument indispensable qu'on ait les performances économiques et la compétitivité nécessaires. Sinon, ils ne manqueront pas de se rappeler.
Est-ce que le modèle pour vous, c'est Lufthansa qui est en train de développer énormément aussi sa low cost?
Il y a aussi une autre compagnie. Moi, j'aime pas tellement citer le nom de mes concurrents, mais qui est à l'ouest.
Quelle?
Qui est à l'ouest de l'Europe.
British Airways.
Voilà.
British Airways.
C'est vous qui le dites.
Et qui a
aussi sa low cost.
Chez Lufthansa.
Qui s'appelle avec un V.
Chez Lufthansa, les pilotes n'ont plus le droit de grève.
Vueling.
C'est ça, non?
On va pas jouer au jeu du quiz. Juste, oui, en effet, Alexis Brézé. Chez Lufthansa, les pilotes n'ont plus le droit de grève depuis le 8 septembre. Monsieur de Juniac, c'est une décision qui est, d'ailleurs, il y a un recours en justice. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous souhaiteriez qu'on limite ce droit de grève?
Je ne crois pas que les. Enfin, je ne suis pas spécialiste du droit allemand, mais je ne crois pas que les pilotes n'ont plus le droit de grève. C'est la grève qui avait été décidée début.
Les conditions ont été très encadrées.
A été jugé en première instance comme étant illégal. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en appel.
Mais est-ce que vous pensez qu'il faut limiter ce droit-là ou pas?
Non. Le sujet, ce n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est de faire des négociations pour améliorer la compétitivité du groupe. Parce que, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez qu'on décrive un peu le paysage de l'aérien.
On va le faire avec Benoît Galeret. Juste un instant. On va le faire avec Benoît Galeret. Va nous rejoindre tout de suite de TF1 LCI pour nous parler de ce qui s'est dit sur la toile, les réactions qu'il y a eu, notamment, j'imagine, peut-être sur le plan qui est programmé pour 2016. Quelles sont les réactions des internautes?
Beaucoup de réactions, en effet, et beaucoup d'inquiétudes. Alors, certains pour vos collaborateurs, dont votre DRH qui est ici, d'autres pour les syndicalistes arrêtés à l'aube, d'autres enfin pour toute la compagnie, comme le dit Charlotte, soit Air France change, soit c'est la fin, si tout le monde pouvait comprendre ça. Est-ce que si jamais, vous nous avez confié vos intitudes tout à l'heure, la société devait arriver à disparaître, vous l'imputerez comme Alain à la CGT et au syndicat?
Non, mais c'est pas une option. Non, la disparition de la société n'est pas une option. Voilà,
c'est ça, ce que se demande beaucoup sur les réseaux, c'est pour ça que je vous demande.
Et bien je le réponds.
Ça c'est un vœu, monsieur de Juniac, pour l'instant.
Tout dépend des négociations. Non, ça n'est pas un vœu. Avec Transform, on a fait une immense partie du travail.
Vous avez dit des questions de vie ou de mort tout à l'heure.
Oui, mais avec Transform, on a fait une immense partie du travail. Il en reste, en gros, à peu près la même proportion à faire. Et c'était la plus difficile, celle qu'on a faite. Donc c'est pour ça que je suis optimiste sur le fait qu'on réussisse la suite. En plus, c'est pour faire quoi? C'est pas faire que pour faire de la restructuration. Au contraire, c'est pour créer des emplois et réouvrir les destinations, acheter des avions.
Benoît.
Ah non, je...
Alors, sans parler de disparition, Michael, je vous demande, est-ce qu'il y a un projet d'entrée dans le capital d'Air France ?
Il faut que nos concurrents se méfient, hein, parce qu'on est revenus. Hein.
D'une compagnie du Golfe, en parlant de vous parler non, de vos concurrents.
La réponse est non.
La réponse est non, très bien.
Et d'autres compagnies, Michael, est-ce qu'il y a d'autres compagnies
non, pas à ma connaissance.
Je vous confie aussi que certains attendaient un mea culpa, peut-être dans la méthode. Alors, il y en a des plus sévères que d'autres. Piloto dit, vous ne remettez pas en question alors que le dialogue social est néant. Et beaucoup ressortent, vous connaissez sans doute cette archive qui vous a fait du mal dans cette bataille d'images. Cette semaine, les entretiens de Royaumont, des entretiens patronaux. On est en décembre 2014, en effet, dans l'abbaye de Royaumont. Et devant, dans ces rencontres patronales, donc devant des patrons, vous ironisez sur les acquis sociaux, sur le travail des enfants, sur le droit de grève, notamment avec un homologue de Qatar Airways. Chez nous, c'est juste pas possible. On les aurait tous envoyés en prison. Vous aurait-il dit, il y a des extraits qui sont repris largement sur les réseaux sociaux. Richard vous demande, est-ce que vous regrettez cette intervention, sachant aujourd'hui que c'était filmé et potentiellement exploitable ?
Alors, je vais lui dire... J'ai été sollicité pour parler aux entretiens de Royaumont, qui sont des entretiens de nature qui ne sont ni partisans, qui ne sont ni partisans, ni ciblant des patrons. Ce sont des entretiens généraux sur un sujet qui était les acquis sociaux et la mondialisation. J'ai essayé de tracer une perspective historique en disant que notre regard sur les acquis sociaux avait évolué dans l'histoire. Et j'ai pris, et c'était un exemple maladroit, l'exemple que vous avez cité, et je le regrette parce que c'était un mauvais exemple, mais jamais, je n'ai dit, insinué ou prétendu que je trouve que c'est
on vous a entendu, monsieur de Juniac,
c'est assez insultant.
Vous avez l'impression, monsieur de Juniac, vous a entendu en effet sur ces questions, de faire le sale boulot, celui que vos prédécesseurs n'ont pas fait.
Je ne sais pas si je fais le sale boulot. J'accomplis ma mission. Je fais le travail avec mon équipe. Oui. Et c'est en train de marcher. Et c'est pour ça que je dis, voilà, cette deuxième étape qui doit être négociée, finalisons-la. Et revenons vers la croissance de du groupe.
Demain, il y a une grande conférence.
Aux Français, aux Hollandais, aux Européens, un groupe qui leur permet de se connecter au reste du monde.
Mot de conclusion. Demain, il y a une grande conférence sociale à l'Élysée. On sent que le climat social dans le pays est dégradé. Est-ce que vous en êtes une des conséquences, justement, de ce climat social en panne ?
Et moi, je ne tirerai pas des conclusions générales des événements qui ont pu se passer, notamment à Air France. Comme je l'ai dit, c'est l'œuvre d'une petite poignée, une petite minorité. Et donc, je n'en tirerai pas des conclusions générales. Premier point. Deuxième point, nous, à Air France, mais j'imagine comme beaucoup, nous pensons que tout ce qui peut développer le dialogue social, faire que les partenaires sociaux s'entendent pour faire avancer le pays, est une bonne chose.
D'accord sur l'air
France. Alexis Brézé. D'accord sur la retraite complémentaire.
Complémentaire, oui.
Ce que je crois, c'est que si le régime de retraite complémentaire était menacé, ben, je crois qu'il était financièrement très, très déséquilibré, il fallait trouver une solution.
C'est tout ce qui
peut faire avancer la France et l'économie française. Et donc Air France KLM, puisqu'on est directement lié à la société de l'économie française.
Et la reprise, vous sentez la reprise poindre ou pas, vous ?
Pas tout à fait encore. On aimerait beaucoup, et pour nous, un point de croissance, ça se traduit par deux points de croissance de passagers.
Donc vous estimez qu'on a encore du chemin à faire ? Vous estimez qu'on a encore du chemin à faire sur la croissance ?
Ce que j'estime, c'est que tout ce qui est fait pour la croissance est bon pour nous.
Voilà. Et s'il y avait une demande juste pour le gouvernement aujourd'hui,
200 millions d'euros en moins d'allègement ?
Oui, une fois que nous aurons démontré notre capacité à faire des efforts. On démontrera notre capacité à faire des efforts et là, je pense que l'État aura à cœur de nous aider.
Et la taxe Chirac...
Exit. On va s'arrêter là parce que...
Si on pourrait la modifier, on trouvera ça bien.
Merci beaucoup Alexandre de Juniac d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les trois. L'émission est rediffusée ce soir sur LCI de 18h30 à 19h30. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau grand jury. Vous retrouverez Elisabeth Martichoux. À très bientôt.
Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien.